Frédéric Nietzsche, Humain, trop humain, tome 2, Opinions et sentences mêlées. 256. Avertissement aux méprisés. Lorsque l'on est tombé avec évidence dans l'estime des hommes, il faut tenir avec une âpre fermeté à la retenue dans les relations. Autrement, on laisse deviner aux autres que l'on a aussi baissé dans sa propre estime. Le cynisme dans les relations laisse deviner que, dans la solitude, l'homme se traite lui-même comme un chien. 257. Certaines ignorances anoblissent. Pour mériter la considération de ceux qui peuvent la donner, il est parfois avantageux de ne pas comprendre certaines choses, de façon à ce que l'on remarque que vous ne comprenez pas. L'ignorance, elle aussi, donne des privilèges. 258. L'adversaire de la grâce. L'homme intolérant et orgueilleux n'aime pas la grâce, et elle lui fait l'effet d'un reproche vivant et visible à son égard. Car elle est la tolérance du cœur dans les gestes et les attitudes. 259. En se revoyant. Lorsque de vieux amis se revoient après une longue séparation, il arrive souvent qu'ils ont l'air de prendre intérêt à des choses qui leur sont devenues complètement indifférentes. Parfois, ils s'en aperçoivent tous deux et n'osent pas lever le voile à cause d'un doute un peu triste. C'est ainsi que certaines conversations ont l'air de se tenir dans le royaume des morts. 260. Il ne faut se faire d'amis que parmi les gens qui travaillent. L'homme oisif est dangereux pour ses amis, car, n'ayant pas assez à faire lui-même, il parle de ce que font et ne font pas ses amis. Il se mêle des affaires des autres et se rend importun. C'est pourquoi il faut être assez sage pour ne se lier qu'avec les gens qui travaillent. 261. Une arme peut valoir le double de deux armes. Il y a lutte inégale lorsque l'un défend une cause avec la tête et le cœur et que l'autre ne la défend qu'avec la tête. Le premier a, en quelque sorte, contre lui le soleil et le vent, et ces deux armes se gênent réciproquement. Il perd son prix aux yeux de la vérité. Il est vrai que, par contre, la victoire du second avec sa seule arme est rarement une victoire selon le cœur de tous les autres spectateurs, et elle le rend impopulaire. 262. La profondeur et l'eau trouble. Le public confond facilement celui qui pêche en eau trouble avec celui qui puise dans les profondeurs. 263. Démontrer sa vanité devant les amis et les ennemis. Certains hommes maltraitent même leurs amis par vanité lorsqu'il y a des témoins à qui ils veulent montrer leur supériorité. D'autres exagèrent la valeur de leurs ennemis pour faire entendre avec orgueil qu'ils sont dignes de pareils ennemis. 264. Rafraîchissement. Le cœur échauffé s'allie généralement à une maladie de la tête et du jugement. Celui qui tient pour un certain temps à la santé du jugement doit donc savoir ce qu'il lui faut rafraîchir, sans souci de l'avenir de son cœur. Car, pour peu que l'on soit capable de s'échauffer, on finira bien par reprendre de la chaleur et par avoir son été. 265. Sentiment composite. À l'égard de la science, les femmes et les artistes égoïstes ressentent quelque chose qui est fait d'envie et de sentimentalité. 266. Quand le danger est le plus grand. On se casse rarement la jambe tant que l'on s'élève péniblement dans la vie. Mais le danger est plus grand lorsque l'on commence à prendre les choses par leur côté facile et à choisir les chemins agréables. 267. Pas trop tôt. Il faut prendre garde à ne pas s'aiguiser trop tôt, parce que, en même temps, on risque de s'amincir trop tôt. 268. Les plaisirs que causent ceux qui regimbent. Le bon éducateur connaît des cas où il peut être fier de voir ses élèves lui résister pour demeurer fidèles à eux-mêmes. Quand le jeune homme ne doit pas comprendre l'homme ou qu'il se nuirait à lui-même s'il le comprenait. 269. Tentative de l'honnêteté. Les jeunes gens qui veulent devenir plus honnêtes qu'ils ne sont choisissent pour victime quelqu'un de notoirement honnête qu'ils commencent par attaquer en cherchant à force d'injures à s'élever à la hauteur de celui-ci, avec l'arrière-pensée que cette première tentative sera certainement sans danger, car leur victime ne châtiera certainement pas leur effronterie. 270. L'éternel enfant. Nous croyons que les contes et les jeux appartiennent à l'enfance. Quelle vue courte nous avons! Comment pourrions-nous vivre à n'importe quel âge de la vie sans contes et sans jeux? Il est vrai que nous donnons d'autres noms à tout cela et que nous l'envisageons autrement. Mais c'est là précisément une preuve que c'est la même chose, car l'enfant, lui aussi, considère son jeu comme un travail et le conte comme la vérité. La brièveté de la vie devrait nous garder de la séparation pédante des âges, comme si chaque âge apportait quelque chose de nouveau. Et ce serait l'affaire d'un poète de nous montrer une fois l'homme qui, à 200 ans d'âge, vivrait véritablement sans compte et sans jeu. 271. Toute philosophie est la philosophie d'un âge particulier. L'âge de la vie où un philosophe a trouvé sa doctrine se reconnaît dans son œuvre. Il ne peut empêcher cela, bien qu'il s'imagine planer au-dessus du temps et de l'heure. C'est ainsi que la philosophie de Schopenhauer reste l'image de la jeunesse ardente et mélancolique. Elle n'est pas une conception pour des hommes plus âgés. C'est ainsi que la philosophie de Platon rappelle le milieu de la trentaine, époque où un courant froid et un courant chaud se rencontrent généralement avec impétuosité, soulevant de la poussière et de petits nuages ténus, mais faisant naître, dans des circonstances favorables, lorsque le soleil donne, un arc-en-ciel enchanteur. 272. De l'esprit des femmes. La force intellectuelle d'une femme paraît démontrée lorsque, par amour pour un homme et son esprit, elle sacrifie son propre esprit, et lorsque, sur ce domaine nouveau, primitivement étranger à sa nature, où la pousse la tendance d'esprit de son mari, il lui naît immédiatement un second esprit. 273. Élévation et abaissement sur le domaine sexuel. La tempête du désir entraîne parfois l'homme à une hauteur où tout désir se tait. C'est quand il aime véritablement et quand il vit plutôt d'une existence meilleure que d'une volonté meilleure. Et d'autre part, une femme bonne descend parfois jusqu'au désir par amour véritable et va jusqu'à s'abaisser devant elle-même. Ce dernier cas surtout fait partie des choses plus émouvantes que l'idée d'un bon mariage puisse entraîner avec elle. 274. La femme accomplit, l'homme promet. Par la femme, la nature montre ce qu'elle est parvenue à accomplir jusqu'à présent dans son travail sur la statue humaine. Par l'homme, elle montre ce qu'elle avait à surmonter dans ce travail, mais aussi tout ce qu'elle se propose encore de faire avec l'être humain. La femme parfaite de tous les temps représente l'oisiveté du Créateur au septième jour de la culture, le repos de l'artiste dans son œuvre. 275. Transplantation. Lorsque l'on a employé son esprit à se rendre maître de ce que les passions ont de démesuré, on arrive parfois à un résultat fâcheux. On transporte sur l'esprit le manque de mesure et l'on s'exalte dès lors dans la pensée et la connaissance. 276. Le rire révélateur. Quand et comment une femme rit, c'est l'indice de son éducation. Mais sa nature se dévoile au timbre de son rire. Chez les femmes très cultivées, on y voit peut-être le dernier vestige inextricable de leur nature. C'est pourquoi celui qui étudie les hommes dira, comme Horace, mais pour une raison différente, « Ridete puellae ». 277. De l'âme du jeune homme. Les jeunes gens changent dans leur rapport avec une seule et même personne et vont du dévouement à l'effronterie. Car dans les autres, ils n'estiment et ne méprisent au fond qu'eux-mêmes. Et à l'égard d'eux-mêmes, ils oscillent d'un sentiment à l'autre jusqu'à ce que l'expérience les ait fait trouver la mesure dans leur vouloir et leur pouvoir. 278. Pour rendre le monde meilleur. Si l'on interdisait la reproduction aux mécontents, aux bilieux et aux esprits moroses, on verrait transformer comme par magie le monde en un jardin de bonheur. Cet axiome fait partie d'une philosophie pratique pour le sexe féminin. 279. Ne pas se méfier de ses sentiments. Le précepte très féminin qu'il ne faut pas se méfier de ses sentiments ne signifie pas autre chose que ceci. Il faut manger ce que l'on trouve bon. C'est peut-être bien aussi une bonne règle usuelle pour les natures mesurées. Mais les autres natures devront vivre selon une autre règle. Il ne faut pas manger seulement avec la bouche, mais aussi avec la tête. Autrement, la gourmandise de ta bouche te fera périr. 280. Cruelle invention de l'amour. Tout grand amour fait naître l'idée cruelle de détruire l'objet de cet amour pour le soustraire une fois pour toutes au jeu sacrilège du changement, car l'amour craint le changement plus que la destruction. 281. porte. L'enfant, de même que l'homme, voit dans tout ce qui lui arrive, dans tout ce qu'il apprend, des portes. Mais pour l'homme, ce sont des portes d'accès, pour l'enfant, des passages. 281. Femme compatissante. La compassion verbeuse des femmes porte le lit du malade sur la place publique. 283. Mérite précoce. Celui qui, très jeune, acquiert déjà des mérites, désapprend généralement la crainte de la vieillesse et de ce qui est ancien, et s'exclut ainsi, à son grand désavantage, de la société des gens mûrs qui procure la maturité d'esprit. Ce qui fait que, malgré ses mérites, il reste plus longtemps que d'autres, vert, importun et puéril. 284. Âme faite d'une pièce. Les femmes et les artistes s'imaginent que quand on ne les contredit pas, on n'est pas capable de le faire. L'admiration sur 10 points différents et le blâme silencieux sur 10 autres leur semblent impossibles en même temps, parce que leur âme est faite d'un seul bloc. 285. Jeune talent. Pour ce qui en est des jeunes talents, il faut procéder rigoureusement selon la maxime de Goethe, lequel prétend que souvent, il n'est pas permis d'entraver l'erreur pour ne pas entraver la vérité. Leur état ressemble aux maladies de la grossesse et entraîne des désirs singuliers. On devrait satisfaire ses désirs tant bien que mal, et en tenir compte à cause du fruit que l'on espère d'eux. Mais, étant le garde de ce singulier malade, il faut s'entendre à l'art difficile de l'humiliation de soi. 286. Dégoût de la vérité. C'est le propre de la femme d'avoir du dégoût en face de toutes les vérités, en ce qui concerne l'homme, l'amour, l'enfant, la société, le but de la vie, et de chercher à se venger de tous ceux qui leur ouvrent les yeux. 287. La source du grand amour. D'où peuvent bien naître les passions soudaines d'un homme pour une femme, les passions profondes et intimes? Elles sont dues à la sensibilité moins qu'à toute autre chose. Mais lorsque l'homme trouve dans un être tout à la fois de la faiblesse, du dénuement et de la pétulance, il se passe quelque chose en lui comme si son âme voulait déborder. Il se sent en même temps touché et offensé. C'est de ce point sensible que jaillit la source du grand amour. 288. Propreté. Il faut développer chez les enfants, jusqu'à la passion, le sens de la propreté. Ce sens s'élève plus tard, par des transformations toujours nouvelles, pour égaler presque toutes les vertus. Et il finit par apparaître comme une compensation de toute espèce de talent, comme une enveloppe lumineuse de pureté, de modération, de douceur, de caractère, portant le bonheur en lui, répandant le bonheur autour de lui. 289. Vieillard vaniteux. La profondeur appartient à la jeunesse, la clarté d'esprit à l'âge avancé. Si, malgré cela, de vieilles gens parlent et écrivent parfois à la façon des hommes profonds, ils agissent ainsi par vanité, croyant revêtir de la sorte le charme de la jeunesse, de l'exaltation, de ce qui est dans son devenir, encore plein de pressentiments et d'espoir. 290. Utilisation du nouveau. Les hommes utiliseront dorénavant ce qu'ils ont appris et vécu de nouveau comme ils se servent du soc de la charrue, peut-être comme d'une arme. Mais les femmes s'en arrangeront immédiatement une parure. 291. Avoir raison auprès des deux sexes. Si l'on convient auprès d'une femme qu'elle a raison, celle-ci ne peut pas s'empêcher de mettre encore triomphalement le talon sur la nuque de celui qui s'est soumis. Il faut qu'elle goûte sa victoire jusqu'au bout. Tandis que, d'homme à homme, on a généralement honte, dans un pareil cas, d'avoir raison. C'est que chez l'homme, la victoire est la règle. Chez la femme, elle est une exception. 292. Renoncement dans la volonté d'être belle. Pour devenir belle, une femme ne doit pas vouloir passer pour jolie. C'est-à-dire que dans 99 cas où elle pourrait plaire, elle doit dédaigner de plaire et s'en empêcher pour recueillir une seule fois le ravissement de celui dont l'âme est assez grande pour accueillir ce qui est grand. 293. Incompréhensible, insupportable. Un jeune homme ne peut pas comprendre que quelqu'un de plus âgé que lui est déjà passé par ses ravissements, ses aurores du sentiment, ses tours de pensée et ses élévations. Il s'offense déjà rien qu'à l'idée que tout ceci a pu exister deux fois. Mais il prend une attitude tout à fait hostile lorsqu'on lui dit que l'on ne peut devenir fécond qu'à condition de perdre ses fleurs et de se passer de leur parfum. 294. Le parti qui prend l'allure d'une victime. Tout parti qui sait se donner l'allure d'une victime attire à lui le cœur des gens bienveillants et gagne ainsi lui-même l'allure de la bienveillance à son grand avantage. 295. Affirmer vaut mieux que démontrer. Une affirmation a plus de poids qu'un argument, du moins chez la plupart des hommes, car l'argument éveille la méfiance. C'est pourquoi les orateurs populaires essayent d'assurer les arguments de leur parti par des affirmations. 296. Les meilleurs receleurs. Tous ceux qui sont habitués au succès sont pleins d'astuces pour présenter toujours leurs défauts et leurs faiblesses comme de la force apparente. D'où il ressort qu'ils connaissent ceux-ci particulièrement bien et qu'ils savent s'en servir. 297. De temps en temps, il s'assit sous la porte de la ville. Et il dit à quelqu'un qui y passait que c'était la porte de la ville. Celui-ci lui répondit que, bien qu'il dise la vérité, il ne fallait pas avoir raison trop souvent si l'on voulait en récolter de la reconnaissance. « Oh !» se prit-il à dire, « je ne tiens pas à la reconnaissance, mais de temps en temps, il est agréable non seulement d'avoir raison, mais encore de garder raison. » 298. La vertu n'a pas été inventée par les Allemands. La noblesse et l'absence d'envie chez Goethe, la résignation altière et solitaire chez Beethoven, la suavité et la grâce du cœur chez Mozart, la virilité inébranlable et la liberté sous la loi chez Handel, la vie intérieure confiante et transfigurée, qui n'a même pas besoin de renoncer à la gloire et au succès, chez Bach. Sont cela des qualités allemandes? Mais si ce n'est pas le cas, montrez-nous du moins à quoi doivent aspirer les Allemands et ce qu'ils peuvent atteindre. 299. Pilgerfraus ou autre chose. Me tromperai-je peut-être, mais il me semble que dans l'Allemagne actuelle, une double hypocrisie est devenue pour chacun le devoir du moment. On demande le germanisme dans l'intérêt de la politique de l'Empire et le christianisme par crainte sociale, mais tous deux seulement dans les paroles et les attitudes, et surtout dans la faculté de pouvoir se taire. C'est l'enduit qui coûte maintenant si cher que l'on paye ainsi au prix. C'est à cause des spectateurs que la nation fait prendre à son visage des plis germano-christianisants. 300. Dans les choses bonnes, le demi vaut mieux que l'entier. Dans toutes les choses qui sont organisées pour la durée et qui exigent toujours le service de plusieurs personnes, il faut présenter comme règle ce qui est parfois moins bon, bien que l'organisateur connaisse fort bien ce qui est meilleur et plus difficile. Mais il tablera sur le fait que jamais les personnes qui pourront correspondre à la règle ne devront manquer. Et il sait que c'est la moyenne des forces qui représente la règle. C'est ce dont un jeune homme se rend rarement compte, et il est certain d'être dans le vrai quand il s'affirme novateur et il s'étonne de l'étrange aveuglement des autres. 301. L'homme de parti. Le véritable homme de parti n'apprend plus rien. Il ne fait qu'expérimenter et juger. Tandis que Solon, qui ne fut jamais homme de parti, mais qui poursuivit son but à côté et au-dessus des partis ou même contre eux, devint l'auteur, et cela est significatif, de cette simple parole qui recèle toute la santé inépuisable d'Athènes. Je deviens vieux, mais je continue à apprendre. 302. Ce qui est allemand selon Goethe. Ils sont vraiment insupportables et l'on ne peut même pas accepter ce qu'ils ont de bon, ceux qui possèdent la liberté de sentiment et ne s'aperçoivent pas que l'indépendance du goût et de l'esprit leur manque. Mais selon le jugement bien pesé de Goethe, cela précisément est allemand. Sa parole et son exemple démontrent que l'allemand doit être plus qu'un allemand pour être utile, ou même seulement supportable aux autres nations. Et il indique dans quelle direction il doit aspirer à se dépasser et à sortir de lui-même. 303. Quand il faut s'arrêter. Lorsque les masses commencent à se débattre avec rage et que la raison s'obscurcit, on fait bien, pour le cas où l'on ne serait pas tout à fait certain de la santé de son âme, de s'abriter sous une porte cochère et de regarder après le temps. 304. Révolutionnaires et propriétaires. Le seul remède contre le socialisme qui demeure entre vos mains, c'est de ne pas lui lancer de provocation, c'est-à-dire de vivre vous-même modestement et sobrement, d'empêcher selon vos moyens tout étalage d'opulence et d'aider l'État lorsqu'il veut imposer lourdement tout ce qui est luxe et superflu. Vous ne voulez pas de ce moyen? Alors, riches bourgeois, qui vous appelez libéraux, avouez-le à vous-même, c'est votre propre sentiment que vous trouvez si terrible et si menaçant chez les socialistes. mais dans votre propre cœur. Vous lui accordez une place indispensable, comme si ce n'était pas la même chose. Si vous n'aviez pas, tel que vous êtes, votre fortune et le souci de sa conservation, ce sentiment vous rendrait pareil aux socialistes. La propriété seule fait la différence entre vous et eux. Il faut d'abord vous vaincre vous-même si vous voulez triompher, en quelque manière que ce soit, des adversaires de votre aisance. Si du moins cette aisance correspondait à un bien-être véritable, elle serait moins extérieure et provoquerait moins l'envie. Elle aurait plus de bienveillance, plus de souci de l'équité, et elle serait plus secourable. Mais ce qu'il y a de faux et de comédien dans votre joie de vivre, qui provient plutôt d'un sentiment de contraste avec d'autres qui n'ont pas cette joie de vivre et qui vous l'envient, que d'une certaine plénitude de la force et de la supériorité, les exigences de vos appartements, vos vêtements, vos équipages, vos magasins, les besoins de la bouche et de la table, vos enthousiasmes bruyants pour le concert et l'opéra, et enfin vos femmes, formées et modelées, mais d'un métal vil, doré, mais sans rendre le son de l'or, choisies par vous pour en faire parade, se donnant elles-mêmes comme pièces de parade. Ce sont là des propagateurs empoisonnés de cette maladie du peuple qui, sous forme de gale socialiste, se répand maintenant parmi les masses avec une rapidité toujours plus grande, mais qui a eu en vous son premier siège et son premier foyer d'incubation. Et qui donc serait encore capable d'arrêter cette peste? 305. Tactique des partis. Lorsqu'un parti s'aperçoit qu'un de ses membres, après avoir été un adhérent absolu, est devenu un adhérent conditionnel, il tolère si peu ce changement qu'il tente, par toutes sortes d'humiliations et de provocations, d'amener sa défection complète et d'en faire un adversaire. Car il soupçonne que l'intention de voir dans sa doctrine quelque chose qui est d'une valeur relative, autorisant le pour et le contre, l'examen et le choix, est plus dangereux pour lui qu'une opposition radicale. 306. Pour fortifier les partis. Celui qui veut fortifier les assises intérieures d'un parti lui procure l'occasion de se faire traiter avec une injustice manifeste. Cela lui fait accumuler un capital de bonne conscience qui lui manquait peut-être jusque-là. 307. Prendre soin de son passé. Puisque les hommes ne vénèrent en somme que ce qui existe depuis longtemps et ce qui s'est formé lentement, celui qui veut continuer à vivre après sa mort ne doit pas seulement prendre soin de ses descendants, mais encore de son passé. C'est pourquoi les tyrans de toute espèce, les artistes et les politiciens, tyranniques eux aussi, aiment à faire violence à l'histoire pour que celle-ci apparaisse comme une préparation et une échelle qui mène jusqu'à eux. 308. Écrivain de parti. Les coups de timbale avec lesquels de jeunes écrivains se plaisent au service d'un parti ressemblent, pour celui qui n'appartient pas au parti, à un cliquetis de chaîne et éveillent plutôt la pitié que l'admiration. 309. Prendre parti contre soi-même. Nos adhérents ne nous pardonnent jamais quand nous prenons parti contre nous-mêmes, car à leurs yeux, ce n'est pas seulement repousser leur amour, mais encore dénuder leur raison. 310. Danger dans la richesse. seul devrait posséder celui qui a de l'esprit. Autrement, la fortune est un danger public. Car celui qui possède, lorsqu'il ne s'entend pas à utiliser les loisirs que lui donne la fortune, continuera toujours à vouloir acquérir du bien. Cette aspiration sera son amusement, sa ruse de guerre dans la lutte avec l'ennui. C'est ainsi que la modeste aisance, qui suffirait à l'homme intellectuel, se transforme en véritable richesse, résultat trompeur de dépendance et de pauvreté intellectuelle. Cependant, le riche apparaît tout autrement que pourrait le faire attendre son origine misérable, car il peut prendre le masque de la culture et de l'art. Il peut acheter ce masque. Par là, il éveille l'envie des plus pauvres et des illettrés, qui jalousent en somme toujours l'éducation, et qui ne voient pas que celle-ci n'est qu'un masque, et il prépare ainsi peu à peu un bouleversement social. Car la brutalité sous un vernis de luxe, la vantardise de comédien, par quoi le riche fait étalage de ses jouissances du civilisé, évoque chez le pauvre l'idée que l'argent seul importe. Tandis qu'en réalité, si l'argent importe quelque peu, l'esprit importe bien davantage. 311. Le plaisir de commander et d'obéir. Commander fait plaisir tout autant qu'obéir. La première chose lorsqu'elle n'est pas encore entrée dans les habitudes, la seconde lorsqu'elle est tout à fait entrée dans les habitudes. Les vieux serviteurs et les nouveaux maîtres s'encouragent réciproquement à faire plaisir. 312. Ambition de la vedette. Il y a une ambition de la vedette qui presse un parti à s'aventurer dans un danger extrême. 313. La nécessité de l'âne. On n'amènera pas la foule à crier aux ânes avant que l'on entre en ville à califourchon sur un âne. 314. Mœurs et parties. Chaque partie essaye de présenter comme insignifiantes les choses importantes qui se sont faites en dehors de lui. Mais s'il n'y réussit point, il attaquera avec d'autant plus d'amertume ce qui sera plus parfait. 315. Se vider. À mesure que quelqu'un s'abandonne aux événements, il s'amoindrit de plus en plus. C'est pourquoi de grands politiciens peuvent devenir des hommes tout à fait vides, alors qu'ils étaient autrefois riches et pleins de talent. 316. Ennemi désiré. Pour les gouvernements dynastiques, les courants socialistes sont utiles plutôt qu'ils n'inspirent la terreur, parce qu'ils donnent à ceux-là le droit de recourir à des mesures d'exception et leur mettent entre les mains une épée pour frapper les partis qui sont leurs cauchemars, les démocrates et les adversaires de la dynastie. Tout ce que de pareils gouvernements haïssent publiquement leur est secrètement sympathique. Ils sont forcés de cacher leur âme. 317. La propriété possède. Ce n'est que jusqu'à un certain degré que la propriété rend l'homme plus indépendant et plus libre. Un échelon de plus et la propriété devient le maître, le propriétaire l'esclave. Il faut dès lors qu'il sacrifie son temps, sa méditation, pour engager des relations, s'attacher à un lieu, s'incorporer à un état. Tout cela peut être à l'encontre de ses besoins intimes et essentiels. 318. de la domination des compétences. Il est facile, ridiculement facile, d'élaborer un modèle pour le choix d'un corps législatif. Il faudrait d'abord mettre à part dans un pays des hommes loyaux et dignes de confiance, qui seraient en même temps maîtres et connaisseurs en certaines choses et reconnaîtraient réciproquement leurs capacités. Dans cette assemblée, il faudrait faire un choix plus restreint qui déterminerait les spécialités et les compétences de premier ordre dans chaque partie. Ce choix se ferait par l'estime et la garantie mutuelle. Le corps législatif ainsi composé, les voix et les jugements de chaque homme spécialement compétent devraient seuls décider dans chaque cas particulier. Et l'honorabilité de tous les autres devrait être assez grande pour que la simple convenance leur fasse abandonner le vote à ceux-ci. De sorte que, au sens strict, la loi naîtrait de la raison des plus raisonnables. Maintenant, ce sont les partis qui votent, et à chaque vote, il doit y avoir des centaines de consciences honteuses, toutes celles des hommes mal informés, incapables de jugement, qui agissent par imitation, que l'on traîne et entraîne. Rien n'abaisse autant la dignité d'une loi nouvelle que la honte forcée de ce manque de probité. À quoi contraint tout vote par parti. Mais je l'ai déjà dit, il est facile, ridiculement facile, d'élaborer une pareille construction. Il n'y a pas de puissance assez forte sur la Terre pour la réaliser dans un sens meilleur. À moins que la croyance en l'utilité supérieure de la science et des savants ne devienne évidente, même pour le plus malveillant, et que l'on ne préfère cette croyance à la foi en le nombre. C'est dans le sens de cet avenir qu'il nous faut dire plus de respect pour l'homme compétent et à bas tous les partis. 319. Le peuple des penseurs, celui des mauvais penseurs. L'indéfini, l'indéterminé, le mystérieux, l'élémentaire, l'intuitif, pour donner des dons vagues à des choses vagues, que l'on dit être les qualités du caractère allemand, serait, si ces qualités existaient effectivement encore, la preuve que la civilisation allemande est demeurée de plusieurs pas en arrière et qu'elle respire encore l'atmosphère du Moyen-Âge. Il est vrai qu'un pareil retard aurait aussi des avantages. Avec les qualités indiquées, pour le cas, bien entendu, où il les posséderait encore, les Allemands seraient aptes à certaines choses et surtout aptes à comprendre certaines choses pour lesquelles d'autres nations ont perdu toutes leurs facultés. Et il est certain que quand le manque de raison, c'est-à-dire ce qui est commun à toutes ces qualités, se perd, il se perd beaucoup de choses. Mais il n'y a point là de perte sans qu'il y ait de grands avantages contraires, de sorte que toute raison de se plaindre fait défaut, en admettant que l'on ne veuille pas agir comme font les enfants et les gourmands, et jouir simultanément des fruits de toutes les saisons. 320. Porter des hiboux à Athènes. Les gouvernements des grands États ont entre les mains deux moyens pour tenir le peuple en dépendance, pour se faire craindre et obéir. Un moyen plus grossier, l'armée, un plus subtil, l'école. À l'aide du premier, ils entraînent de leur côté l'ambition des classes supérieures et la force des classes inférieures, du moins dans la mesure où ces deux classes possèdent des hommes actifs et robustes, doués moyennement et médiocrement. À l'aide de l'autre moyen, ils gagnent pour eux la pauvreté douée, et surtout la demi-pauvreté à prétentions intellectuelles des classes moyennes. Il se crée avant tout, par les professeurs de tous grades, une cour intellectuelle qui aspire à monter, en entassant obstacle sur obstacle contre l'école privée ou l'éducation particulière que l'État a spécialement en haine, il s'assure la disposition d'un très grand nombre de places qui sont convoitées sans cesse par un nombre certainement 5 fois supérieur à celui qu'on pourrait satisfaire. Dieu avide et quémandeur. Mais ces situations ne devront nourrir leur homme que très maigrement. C'est ainsi que l'État entretient chez lui la soif fiévreuse de l'avancement et le lie plus étroitement encore aux intentions gouvernementales. Car il vaut mieux entretenir un mécontentement bénin, bien préférable à la satisfaction, mère du courage, grand-mère de la liberté d'esprit et de la présomption. Au moyen de ce corps enseignant, matériellement et intellectuellement tenu en bride, on élève alors, tant bien que mal, toute la jeunesse du pays à un certain niveau d'instruction utile à l'État et graduée selon le besoin. Avant tout, l'on transmet presque imperceptiblement aux esprits faibles, aux ambitieux de toutes les conditions, l'idée que seule une direction de vie reconnue et estampillée par l'État vous amène immédiatement à jouer un rôle dans la société. La croyance aux examens d'État et aux titres conférés par l'État va si loin que même des hommes qui se sont formés d'une façon indépendante, qui se sont élevés par le commerce ou par l'exercice d'un métier, gardent une pointe d'amertume au cœur tant que leur situation n'a pas été reconnue d'en haut par une investiture officielle, un titre ou une décoration, jusqu'à ce qu'ils puissent se faire voir. Enfin, l'État associe la nomination aux mille et mille fonctions et places rétribuées qui dépendent de lui à l'engagement de se faire éduquer et estampiller par les établissements de l'État. Autrement, cette porte vous demeure close à jamais. Honneur dans la société, pain pour soi-même, possibilité d'une famille, protection d'en haut, esprit de corps chez ceux qui ont été éduqués en commun. Tout cela forme un filet d'espérance où se précipitent tous les jeunes gens. D'où pourrait donc leur venir un souffle de méfiance? Si, en fin de compte, l'obligation pour chacun d'être soldat pendant quelques années est devenue au bout de quelques générations une habitude et une condition que l'on accomplit sans arrière-pensée, en vue de quoi l'on arrange d'avance sa vie, l'État peut encore hasarder le coup de maître d'enchaîner par des avantages l'école et l'armée, l'intelligence, l'ambition et la force, c'est-à-dire d'attirer vers l'armée les hommes d'aptitude et de culture supérieure et de leur inculquer l'esprit militaire de l'obéissance volontaire. Ce qui les entraînera peut-être à prêter serment au drapeau pour toute leur vie et à procurer par leurs aptitudes un nouvel éclat au métier des armes. Alors, il ne manquera plus autre chose que l'occasion des grandes guerres. Et l'on peut prévoir que, de par leur métier, les diplomates y verront en toute innocence, de même que les journaux et la spéculation. Car le peuple, lorsqu'il est un peuple de soldats, a toujours bonne conscience quand il fait la guerre. Inutile de la lui suggérer. 321. La presse. Si l'on considère qu'aujourd'hui encore, tous les grands événements publics se glissent secrètement et comme voilés sur la scène du monde, qu'ils sont cachés par des faits insignifiants, à côté desquels ils paraissent petits, que leurs effets profonds, leurs contre-coups ne se manifestent que longtemps après qu'ils se sont produits, Quelle importance peut-on alors accorder à la presse, telle qu'elle existe aujourd'hui, avec sa quotidienne dépense de poumons pour hurler, assourdir, exciter et effrayer? La presse, c'est-elle autre chose qu'un bruit aveugle et permanent qui détourne les oreilles et les sens vers une fausse direction? 322. Après un grand événement, un peuple ou un homme dont l'âme a été mise au jour par un grand événement éprouve ensuite généralement le besoin d'un enfantillage ou d'une grossièreté, tout aussi bien par pudeur que pour se reposer. 323. Être un bon Allemand, c'est cesser d'être allemand. On ne trouve pas seulement, comme on avait cru jusqu'ici, les différences nationales dans les nuances entre les différents degrés de culture. Ces différences n'ont souvent rien de durable. C'est pourquoi toute argumentation basée sur le caractère national engage si peu celui qui travaille à la transformation des convictions, celui qui fait œuvre civilisatrice. Si l'on passe par exemple en revue tout ce qui a déjà été appelé allemand, il faudra corriger la question théorique « qu'est-ce qui est allemand ?» en se demandant « qu'est-ce qui est maintenant allemand ?» Et tout bon allemand résoudra pratiquement cette question, précisément en surmontant ses qualités allemandes. Car, lorsqu'un peuple va de l'avant et grandit, il rompt chaque fois les entraves qui lui ont conféré jusqu'ici la considération nationale. Si ce peuple s'arrête, s'il dépérit, de nouvelles entraves se mettent autour de son âme. La croûte qui devient tous les jours plus dure forme en quelque sorte une prison dont les murs ne font que s'épaissir. Si un peuple célèbre beaucoup de fêtes, c'est une preuve qu'il veut se pétrifier et qu'il aimerait se changer en monument, comme ce fut le cas de l'égypticisme à partir d'une certaine époque. Celui, donc, qui veut du bien aux Allemands, devra veiller pour sa part à grandir toujours davantage au-dessus de ce qui est allemand. C'est pourquoi l'orientation vers ce qui n'est pas allemand fut toujours la marque des hommes distingués de notre peuple. 324. Prédilection pour l'étranger. Un étranger qui voyageait en Allemagne déplut et plut par quelques affirmations selon les contrées où il séjourna. Tous les Souabes qui ont de l'esprit, avait-il l'habitude de dire, sont coquets. Mais les autres Souabes continuent à croire qu'Uhland est un poète et que Goethe fut immoral. Ce qu'il y a de meilleur dans les romans allemands qui ont maintenant la vogue, c'est que l'on n'a pas besoin de les lire, on les connaît déjà. Le berlinois paraît être de meilleure composition que l'allemand du Sud, car, étant excessivement moqueur, il supporte la moquerie, ce qui n'est pas le cas chez les Allemands du Sud. L'esprit des Allemands est maintenu à un niveau inférieur par la bière et les journaux. Il leur recommande le thé et les pamphlets, comme remède, bien entendu. Il conseillait d'examiner les différents peuples de la vieille Europe au point de vue des qualités particulières aux vieillards, dont elle présente assez bien les types différents. Ceci à la plus grande joie de ceux qui assistent au spectacle du grand tréteau. Les Français représentent d'une façon heureuse ce que la vieillesse a de sage et d'aimable. Les Anglais, l'expérience et la retenue. Les Italiens, l'innocence et l'aisance.
Les autres masques de la vieillesse feraient-ils défaut? Où est le vieillard hautain, ou le vieillard despotique, ou le vieillard cupide? Les contrées les plus dangereuses de l'Allemagne sont la Saxe et la Thuringe. On ne trouve nulle part plus d'activité intellectuelle et de science des hommes, avec beaucoup de liberté d'esprit. Et tout cela est tellement humble, caché par l'horrible langage et la serviabilité de cette population, que l'on s'aperçoit à peine que l'on a devant soi les sous-officiers intellectuels de l'Allemagne et les maîtres de celle-ci, en bien et en mal. L'arrogance des Allemands du Nord est maintenue dans ses bornes par leur penchant à obéir. Celle des Allemands du Sud, par leur penchant à l'indolence. Il lui semblait que les hommes allemands avaient dans leurs femmes des ménagères maladroites, mais très convaincues de leur valeur, que celles-ci disaient du bien d'elles-mêmes avec tant d'insistance qu'elles avaient convaincu presque tout le monde, et en tout cas leur mari, des vertus particulières que déploient dans leur intérieur les femmes allemandes. Quand alors la conversation se portait sur la politique de l'Allemagne, à l'extérieur et à l'intérieur, il avait l'habitude de raconter, il disait de révéler, que le plus grand homme d'État de l'Allemagne ne croyait pas aux grands hommes d'État. Il considérait l'avenir des Allemands comme menacé et menaçant, car ils avaient des appris de se réjouir, ce à quoi les Italiens s'entendaient si bien. Mais par le grand jeu de hasard des guerres et des révolutions dynastiques, il s'était habitué à l'émotion. Par conséquent, il finirait un jour par avoir chez eux l'émeute, car c'est là la plus forte émotion qu'un peuple puisse se procurer. Le socialiste allemand, disait-il, était le plus dangereux de tous parce qu'il n'était pas poussé par une nécessité déterminée. Ce dont il souffre, c'est de ne pas savoir ce qu'il veut. Quoi qu'il puisse donc atteindre, dans la jouissance, il languira toujours de désir, tout comme Faust, mais probablement comme un Faust très populacier. Car, s'écriait-il enfin, Bismarck a chassé le démon de Faust qui a tant tourmenté les Allemands cultivés. Mais ce démon est maintenant entré dans les pourceaux. Et il est pire que jamais.